Bonjour, bonjour. Alors, bonjour à tous ceux qui se sont connectés déjà. Qui est là? Alors, Bernadette, en fait, Rosie, bonjour. Immacula, bonjour. Pascal, bonjour. Lucie, bonjour. Sampawende, que Dieu te bénisse. Wenaling Barka. Idem pour Charlotte, s'il est avec toi. Alors, on est le mercredi 22 juin de l'an de grâce 2022. Bonjour à la belle-mère. Bonjour à Rachel et aux sœurs qui sont connectées avec elle. La sœur Mona, la sœur Chantal, la sœur Ocilia. Bien le bonjour. Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour à Manon, que Dieu vous bénisse. Alors avant qu'elle n'arrive, parce qu'elle va certainement se joindre à nous, elle est avec nous à tous les matins, bien, bonjour Farley, bonjour Marie-André, que Dieu vous bénisse. Donc on souhaite un très joyeux anniversaire. Quand elle arrivera, vous lui souhaiterez un très joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de notre sœur Marie-Huguette, répond au sobriquet Tanya Queen. Donc quand vous voyez Tanya Queen s'afficher, c'est la sœur Marie-Huguette. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui. Vous lui souhaitez un très joyeux anniversaire. Bonjour à Sylvia. Bonjour à Marguerite. Bonjour à Claude ainsi qu'à la petite famille. Qui est là aussi? Je vois personne d'autre que je n'ai pas salué. Donc, on vous rappelle que cette semaine, on étudie le texte de Jérémie 29, le verset 7, en lien avec donc le fait de prier. Je m'excuse, encore quelques petits relents de la semaine dernière. Le texte en lien avec la prière pour le Québec et pour la Saint-Jean-Baptiste qu'on célèbre ce mardi, ce vendredi. Marie-Marthe, bonjour. Manon vous a précédé, Marie-Marthe. Jean-Gilbert Ozani, bonjour. Guy, bonjour. Denise, bonjour. Ça, c'est Denise de Laval. Gilles, Joanne, bonjour. Nathalie, bonjour. Alors, je m'excuse pour les toussotements que je pourrais avoir aujourd'hui. J'ai eu quelques petites difficultés encore hier soir, donc ça a réactivé l'atout, va-t-on dire. Rien de grave encore, là. C'est simplement les petits malaises que j'ai un peu régulièrement ces temps-ci. C'est juste embêtant lorsque je parle, mais comme un pasteur est supposé parler, donc ça fait un peu compliqué. Désolé. Maria, bonjour. Le bonjour à Herbert et à la sœur Rosita. Encore 3 ou 4 minutes avant qu'on ne débute. Vous savez que je me connecte toujours un peu plus tôt pour saluer nos gens. Vous m'avez souvent dit que ça fait autant partie de la bénédiction. l'enseignement que les salutations avant l'enseignement. Donc, c'est pour ça que je me connecte toujours un bon 10 à 12 minutes avant qu'on débute, tout simplement pour permettre aux gens de se saluer, de recevoir un petit coucou fraternel de vive voix. Janine, bonjour, que Dieu vous bénisse. Content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Sois bénie aussi, Maria. Jude, Caridad, bonjour. Alors simplement vous aviser que demain je pourrais peut-être être un peu en retard. J'ai un rendez-vous avant la bénédiction matinale. Juste le petit traitement mensuel pour l'irrigation du porte-à-quatre. Les infirmières qui sont ici ou celles qui sont passées, celles et ceux qui sont passés par la chimiothérapie, vous savez, le bidule qu'on implante dans la poitrine et qu'on garde pendant un certain temps. Donc moi, ça fait déjà quelques années. À tous les mois, je dois donc le faire irriguer. Et c'est demain matin. Bonjour à ma tante. Cathy, bonjour. C'était bien d'échanger avec toi au cours des dernières heures. Bonjour à la belle-mère. Shalom. Ça va aller, Marie-André. On prend une petite gorgée par-ci par-là et puis ça va. Ni hao yaoi, yezuai ni. J'espère que tu vas bien. Pour toi aussi, une excellente journée remplie de bénédictions. Ah, cette fois-ci, c'est Bernadette, la sœur Bernadette. Celle de Montréal. Voilà. Que Dieu te bénisse, Bernadette. Alors, Néma a eu ses collations. Elle s'est fait gratter le popotin et là, elle va aller boire. Donc, elle est tellement prévisible. Merci, Tati. Vu se connecter encore, mais je vous rappelle que c'est l'anniversaire de la sœur Marie-Huguette qui apparaît le matin, tous les matins. Peut-être parce que c'est son anniversaire, elle a été un peu timide puis elle s'est pas branchée, mais elle apparaît à tous les matins avec le pseudo Tanya Queen. Donc, si vous la voyez apparaître, vous la saluez, c'est son anniversaire. C'est la sœur Marie-Huguette. C'est Facebook qui m'a rappelé ça ce matin. Donc, comme ma belle-mère, vous pouvez bien entendu prendre de l'avance et puis saluer notre bien-aimée sœur. La voilà qui arrive. Marie-Huguette, on pensait que tu allais te cacher aujourd'hui. Sois bénie, joyeux anniversaire. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Bonjour Suze, bonjour à la petite famille. Donc maintenant que Marie-Huguette est là et qu'elle a pu entendre de vive voix nos salutations, on vous invite à continuer à lui souhaiter un joyeux anniversaire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Nous, on va commencer, on va prier et puis on va débuter notre enseignement pour ce matin. Alors merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, merci pour cette autre journée où ta grâce assurément nous est acquise. Nous savons, Seigneur, que tu répands sur nous tes bénédictions à chaque matin, que tes grâces, tes bénédictions se renouvellent en fait à tous les matins pour tes enfants. Alors aujourd'hui, étends ta main, touche-nous, touche notre entendement alors qu'on s'apprête à plonger nos regards dans ta parole. Permets-nous, Seigneur, de saisir ta pensée, de saisir, Seigneur, tes recommandations à notre égard et tes attentes, Seigneur, envers chacun d'entre nous. Puissions-nous être disposés à obéir selon ta parole, disposés à vivre en accord avec tes préceptes, afin que quoi que nous fassions, où que nous soyons, quoi que nous disions, avec qui que l'on puisse se rassembler, que nous te soyons agréables et que tu prennes plaisir dans la vie que nous menons. En toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance te reviennent à toi. Et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, je lis pour vous donc le verset qui nous sert de thématique pour cette semaine. Je rappelle que c'est en lien avec les festivités qui marquent le 24 juin ici au Québec. C'est la fête de la Saint-Jean ou de la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale des Québécois. La semaine suivante, une semaine juste après, donc le 1er juillet, ce sera la fête nationale du Canada. Mais pour nous qui vivons au Québec, donc ce vendredi, c'est la fête du Québec. Et on prend quelques moments cette semaine, tout simplement pour voir quelle doit être notre attitude par rapport à la nation qui nous accueille. Et que l'on soit immigrant de première génération, que l'on soit immigrant de deuxième, troisième, quatrième, dixième génération. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous ne sommes que des pèlerins ici-bas sur terre, que notre nationalité, en venant à Christ, a changé, que notre appartenance à cette terre a été modifiée par notre appartenance au royaume des cieux. Si on devait avoir un passeport spirituel, celui-ci devrait indiquer en fait Nouvelle Jérusalem, qu'on attend lorsque Christ va revenir chercher son Église. Mais d'ici là, donc, on est des pèlerins qui séjournent ici-bas sur terre et qui ont malgré tout un mandat à remplir par rapport à la nation dans laquelle on peut vivre ici-bas sur terre. Donc, je lis pour vous Jérémie 29, le verset 7. Jérémie 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Je répète, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Une dernière fois, tous ensemble, là où vous êtes à la maison, ou au travail, ou dans la voiture, on répète ensemble, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Simplement pour remettre les choses dans leur contexte, comme on l'a fait hier, on vous rappelle que c'est une prophétie qui va arriver au début de la déportation d'Israël. Israël a péché contre l'Éternel. Le châtiment de Dieu tombe sur la nation et ce châtiment prend la forme d'une déportation, d'un exil qui va être contesté par plusieurs pseudo-prophètes. Lorsque Babylone prend donc possession de Jérusalem, ce que Babylone va faire, c'est qu'il va s'emparer de toutes les richesses pécuniaires, toutes les richesses matérielles du pays. Mais de surcroît à cela, on va aussi prendre tous les jeunes gens bien éduqués, bien formés, tous les jeunes nobles de Jérusalem et on va les envoyer en captivité jusqu'à Babylone pour qu'ils servent le roi. Parmi ceux-là, les plus célèbres sont bien entendu Daniel avec ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais dans ceux-là, il y a aussi des prophètes, dont Jérémie. Il y a d'autres gens qui vont aussi se succéder pendant ces 70 ans que va durer la captivité. Alors, ce qui se passe au début, c'est que les gens sont amenés effectivement jusqu'à Babylone. Par la suite, Babylone va tomber. C'est le pays de l'Assyrie, donc L'Assyrie, qui n'existe plus aujourd'hui, qui va être le deuxième empire, qui va malmener Israël. On amène les gens en captivité et là-bas, pendant qu'on débute l'installation, les gens sont en train de se morfondre, ne sachant pas en fait s'ils doivent s'établir pleinement dans la nation de Babylone, dans la ville de Babylone, ou s'ils doivent tout simplement attendre la délivrance de l'Éternel. Alors certains prétendant être inspirés de Dieu s'improvisent prophètes et se lève en disant « Ne craignez pas, l'Éternel va vous délivrer, c'est une question de quelques mois, de quelques semaines, puis nous allons rentrer à Jérusalem, la vengeance de Dieu va s'exercer contre la nation impie qui nous a volé, qui nous a amenés en exil. » Et ce n'est pas Dieu qui inspire ça. Pourquoi? Parce que c'est en fait un châtiment de Dieu qui s'exécute encore à cause du péché et de l'iniquité d'Israël. Alors Dieu va parler à un vrai prophète, à Jérémie, en lui disant « Va instruire le peuple et dis-leur que tout ce qu'ils sont en train de raconter, c'est en fait des malversations et puis des faussetés. » Alors Jérémie va se lever et va dire « La déportation, ce n'est pas comme vos prophètes peuvent vous l'annoncer, qui ne va durer que quelques mois. La déportation va durer 70 ans. » Et ça a été arrêté par Dieu lui-même. Et Dieu ne va pas simplement dire à Israël, « Bon, ben ça va durer 70 ans, endurez la chose. » Non, il va leur dire, « Regardez, pendant que vous êtes en déportation, pendant que vous êtes en exil pour purger la sentence qui a été prononcée contre vous, pour être réformé par la correction que je vous impose, voici ce que vous devez faire. Maintenant que vous êtes à Babylone, recherchez le bien de la ville de Babylone, où je vous ai amené en captivité. Priez en faveur de Babylone, parce que votre bonheur personnel dépend du bonheur de Babylone. » Donc Dieu leur donne les conseils de comment se comporter, comment vivre, comment agir pendant ce temps de déportation. Et hier, on disait effectivement, plusieurs d'entre nous, le Québec est une terre d'accueil merveilleuse et plusieurs d'entre nous, particulièrement au niveau de notre église locale, on a au-dessus de 50% des membres de la congrégation qui sont soit immigrants de toute première génération ou qui sont immigrants de deuxième génération ou de troisième génération. Et certains d'entre eux viennent donc à Montréal, viennent au Québec, toujours avec le désarroi d'avoir dû quitter la nation mère, la patrie d'où on est né. Sachons d'une façon très très claire que personne immigre par grande joie. En fait, il est plus facile de rester chez soi lorsqu'on quitte ce qu'on a connu, là où notre vie était établie. C'est un temps de grand changement, un temps de grande difficulté. Et personne décide de quitter un pays lorsqu'il est dans une situation enviable là où il est initialement basé. La vie d'un immigrant, la vie d'un nouvel arrivant n'est jamais facile. Et Dieu le sait, et Dieu sait que Babylone se trouve à être un endroit où les Juifs qui ont été déportés n'ont pas envie d'y être. Ils ont envie de retourner à Jérusalem et voilà pourquoi plusieurs vont improviser des messages. Mais Dieu leur dit, voici pendant ces 70 ans ce que vous devez faire. Alors cette semaine, on peut comprendre ce texte de deux façons. Soit parce que contrairement à moi, on est immigrant au Québec et on n'a pas envie d'y être. On a envie plutôt de, de retourner dans notre terre patrie. Et ce n'est pas mon cas, puisque vous savez que j'ai un amour profond pour Montréal et un amour profond pour là où le Seigneur m'a établi. Je ne me verrai pas vivre ailleurs pour le restant des jours qui me sont donnés. Mais il y a certaines personnes qui sont, même au sein de la congrégation, qui sont parmi notre entourage, au niveau de la ville, au niveau de la province, au niveau du pays, qui sont là non pas par choix, par bonheur et puis par décision personnelle, mais parce que la vie, les circonstances, les situations ont imposé un changement de patrie. De surcroît à cela, on peut voir ce texte dans un deuxième, avec un deuxième aspect qui est aussi tout aussi important et qui nous englobe tous. Comment se comporter lorsque nous sommes dans un environnement contraire, dans un environnement qu'on n'aime pas nécessairement. Et là, comme on le disait hier, ça peut être une école, si on est un élève ou un étudiant. Ça peut être un milieu de travail auprès de collègues qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on apprécie énormément, voire qui nous sont peut-être antagonistes ou qui sont contre nous. Ça peut être une société, une génération, un voisinage dans lequel on n'aime pas être établi. La Bible va être très claire et on le prend comme prémisse pour notre enseignement toute cette semaine. Jésus, dans le Nouveau Testament, va être très clair en disant « Aimez vos ennemis ». Alors, quoi que je puisse sentir par rapport au milieu dans lequel je suis établi, la règle d'or pour toi et pour moi en tant qu'enfant de Dieu, c'est de propager l'amour de Christ, même envers ceux qui seraient nos adversaires, nos ennemis. Aimez vos ennemis. Et Jésus va dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si j'aime mon ennemi, c'est que mon ennemi n'est plus mon ennemi, mais mon ennemi, puisque je l'aime, devient mon ami. Aux yeux de Dieu, on ne devrait pas maintenir des querelles, maintenir des antagonies avec quelqu'un. Nous devrions accorder tout naturellement, tout spontanément, tout instantanément, le pardon dès qu'on est offensé. Jésus, lorsqu'il va enseigner le Notre Père, et je vais prendre une gorgée, lorsque Jésus va enseigner la prière à ses disciples, un des points importants, c'est pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Deux choses importantes. On ne peut pas être pardonné différemment de comment on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Alors, si on veut être pardonné, il nous faut aussi pardonner. Si nous ne pardonnons pas, Dieu, dans sa justice, va aussi refuser de nous pardonner. Alors, par rapport à ceux qui nous entourent, école, travail, milieu social, village, quartier, ville, province, pays, nous devons appliquer la règle de l'amour de Christ, même pour nos offenseurs, même pour ceux qui sont contre nous. Et hier, on a vu ce qu'était rechercher le bien de la ville. Le bien, c'était le shalom de Dieu, donc la paix, qu'on puisse être des agents de paix dans cette ville, qu'on puisse être aussi des agents qui agissent pour la plénitude ou l'essor plein de notre ville et enfin pour la sécurité de la ville. Le terme shalom, qui en français ici est traduit par bien, est un terme qu'on va traduire avec différents adjectifs, dont paix, plénitude, sécurité. Je voulais revenir sur cette même phrase pour la compléter. La Bible va dire « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. » Recherchez le bien de la ville. Ville, c'est le terme « ir ».« Ir » en hébreu. « Ir » si vous l'écrivez avec l'alphabet occidental. Donc « ir » qui a deux sens. Un lieu d'excitation, mais aussi un lieu de peur et d'angoisse. Alors Dieu dit, je vous ai amené dans la ville, priez pour le bien de la ville, un lieu d'excitation et un lieu de peur et d'angoisse. Et assurément, lorsqu'on arrive dans un territoire qui nous est nouveau, il y a cette dichotomie qui s'offre à nous. Ces deux aspects qui sont contradictoires l'un avec l'autre. Alors, en partie, oui, la ville peut ressembler à quelque chose de très excitant. La ville, c'est l'endroit où il y a toutes les festivités, il y a tous les loisirs, tous les plaisirs, bons comme mauvais, toutes les offres, bonnes comme malines, qui peuvent nous être proposées. Et Dieu le sait. Et dit, je vous amène dans un endroit où vous serez confrontés tant avec les plaisirs de cette ville qu'avec les terreurs et les angoisses de la ville. On le voit très bien dans la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue va prendre son héritage, va quitter la maison de son père et va aller dans la ville, là où il va dépenser tout ce qu'il a. La Bible nous dit qu'il a dépensé auprès des femmes et auprès des loisirs tout ce qu'il avait reçu en héritage. La ville, en fait, c'est l'endroit où nous allons être mis à découvert. Et on va voir combien c'est important tout à l'heure, le terme mis à découvert. On va être confronté avec des choses. Confronté pourquoi? Pas pour nous perdre. La Bible nous dit que Dieu ne tente personne. Alors qu'on ne doit pas accuser Dieu de tenter qui que ce soit. Mais Dieu nous place dans des endroits pour que nous soyons confrontés à des choix et pour que ces choix que nous allons prendre soient les bons. Dieu, lorsque il permet que tu passes par un sentier, ce n'est pas pour te perdre, ce n'est pas pour te faire échouer, mais c'est pour te faire avoir du succès. Repensons à l'histoire de Job. Job va être amené dans un contexte tout à fait désagréable pour lui. La Bible nous dit que Dieu regarde la terre et il dit, il n'y a pas un homme aussi intègre que Job. Le diable vient et le diable dit à Dieu foncièrement, laisse-moi le tenter et tu vas te rendre compte qu'il est comme les autres et qu'il va pécher lui aussi. Et Dieu lui dit, voilà, tu peux le confronter, tu peux le tenter. Mais tu dois limiter ton action jusqu'au point où moi je fixe pour toi. Et effectivement, le diable va venir éprouver Job. Mais Job, tout au long de cette tentation, la tentation étant celle que son épouse va lui proposer, renie Dieu, maudit Dieu et meurt. Elle dit, regarde, avec tout ce qui se passe, tu ne pourrais pas être plus malheureux. Alors maudit Dieu. Lâche tout ton fiel sur Dieu et après ça, meurs. Subis la conséquence. Au moins, tu auras sorti ton fiel. Job ne va pas sombrer dans ce péché-là. Job va dire, mais voilà, on a reçu de Dieu, pourquoi on ne serait pas retiré? Ou si Dieu a donné, pourquoi Dieu ne retirerait-il pas? En toute chose, Dieu a donné, Dieu a enlevé. Que le nom de l'Éternel soit loué. C'est la formulation que Job va avoir. Dans cela, Job confirme qu'il est effectivement intègre comme Dieu disait qu'il l'était. Et comme Dieu disait au diable que Job continuerait à l'être. Le diable a tenté, Job a été éprouvé, et Job a attesté devant Dieu et devant les hommes la vraie nature. Mais pour être éprouvé, pour attester de la vraie nature de laquelle Job était, il a dû être confronté à des choix. Ce choix de maudire Dieu, ce choix de se plaindre, ce choix d'abandonner sa rigueur devant Dieu, d'abandonner sa sanctification devant Dieu. Et lorsque nous sommes tentés, nous avons ce même dilemme et ce même choix. Lorsque nous sommes placés dans un contexte qui est désagréable, nous avons ce même choix. Lorsque on est tenté par des choses qui nous excitent, on a le choix et qui nous plaisent, on a le choix d'abdiquer et de céder à la tentation ou de rester ferme. Lorsqu'on est confronté par des choses qui nous sont désagréables, on a encore là le même choix, abdiquer, céder à la colère qui peut s'emparer de nous ou au ressentiment qui peut s'emparer de nous est péché. Toute ta vie, toute ma vie, je serai placé dans un tel contexte où j'ai des choix à faire. Il y a simplement des moments où ce contexte devient plus intense. Et la ville représente, ou le mot « ville » représente cet endroit où, oui, je suis confronté avec des excitations, des choses qui m'attirent, et de surcroît à cela, je suis confronté avec des choses qui me font peur et qui m'angoissent. Mais Dieu va dire à Israël de rechercher le bien de la ville. Donc, rechercher le bien de la ville, c'était que Israël, le peuple juif qui avait été déporté, avait un mandat pour Babylone et qui était de transformer l'excitation que provoque le péché et la tendance ou la propension à aller vers le péché, à changer cela vers une poursuite de la sainteté et de la sanctification. Donc, Jérusalem, où le peuple juif qui avait été déporté jusqu'à Babylone, avait un mandat de sanctification à l'intérieur même de la nation babylonienne. Peu importe là où tu te retrouves aujourd'hui, peu importe l'environnement dans lequel tu as ce même travail de réconciliation avec les principes de Dieu, de réconciliation avec la pensée de Dieu, de réconciliation avec le mode de vie de Dieu. Nous devrions être des agents de transformation qui amènent la nation, qui amènent l'endroit où nous sommes, qui amènent le cercle qui nous entoure, parce qu'on a tous un certain cercle d'influence, qui amène que ce soit la famille que nous composons, que ce soit le voisinage dans lequel nous sommes, nous devrions avoir cette incidence sur le quartier qui change ce quartier pour le bien, qui change ce quartier vers un apaisement de la relation avec Dieu. Un jour, je lisais un article et c'était sur la fermeture de certaines églises qui avaient existé pendant 20, 30, 40, 50, 80 ans, 100 ans. Et certaines d'entre elles, à cause des années, venaient à fermer. Moins de gens qui la fréquentaient, moins de moyens donc pour opérer, pour agir. Et l'auteur posait la question, si ça arrivait à votre église, est-ce que le quartier dans lequel votre église est établie s'en ressentirait? C'est une grande question et une question importante. Si nous devions cesser d'exister en tant qu'Église, est-ce que Montréal s'en ressentirait? Mais allons plus au niveau personnel et individuel. Si tu cessais d'exister demain matin, est-ce que le cercle dans lequel tu évolues, le travail, le voisinage, la société, est-ce qu'elle s'en sentirait un manque? Est-ce qu'elle en ressentirait un manque? Est-ce que tu apportes quelque chose de constructif et de positif? Est-ce que demain matin, si tu n'étais plus là, on jugerait que c'est une perte pour la société, pour ton environnement? Et je répète, chacun d'entre nous, on a un cercle d'influence. On a des voisins de palier. On a quelques amis autour de nous. Si nous n'étions plus là, quel serait leur constat? Est-ce que notre présence influençait positivement leur vie? Si ce n'est pas le cas, tu as encore le souffle de vie et tu as encore l'occasion de bien faire les choses. Je vous ai mené dans cette ville, lieu d'excitation et lieu de peur et d'angoisse. Est-ce que mon appartenance à une ville, mon appartenance à une société, est-ce qu'elle permet non seulement de sanctifier cet endroit, mais aussi d'amener la paix, le calme, voire la joie dans cet endroit? Est-ce que je suis un agent positif, un agent de paix, un agent de shalom dans la société, dans la famille, dans le cercle auquel j'appartiens? Ou est-ce que ma présence même dérange, ma présence même vient à susciter des conflits? Est-ce que ma présence même vient à susciter des dissensions? Et on connaît tous des personnes, et j'espère que nous n'en sommes pas personnellement, mais on connaît tous des gens qui, lorsqu'ils rentrent dans une pièce, l'atmosphère change de façon désagréable. On connaît tous des gens qui, dès qu'ils arrivent, il y a la zizanie qui se pointe. On connaît tous des gens qui sont des agents de dissension, de division, de querelle. On en connaît tous. J'espère qu'on est assez honnête aussi pour s'analyser correctement, demander à Dieu de nous décrire correctement et qu'on soit aussi à l'écoute de notre environnement, à savoir est-ce que Florent, lorsqu'il se présente, suscite une cohésion, une unité, ou lorsque Florent se présente, il suscite une division. Ça doit être adressé, ce doit être analysé, et on doit arriver à une conclusion. Dieu va dire, je vous ai amené dans cette ville pour que vous la changiez, pour que vous la transformiez, parce que votre bien dépend de son bien. Il dit, je vous ai mené dans cette ville en captivité. Mené en captivité, on a vu hier que c'était le terme gala. C'est ironique jusqu'à un certain point, parce que gala est quelque chose de festif, quelque chose de joyeux. Si vous avez déjà participé à un gala, on sort tout son attirail, ses beaux vêtements, son bon parfum. Pour les dames, on se maquille, on essaie d'être sur ses meilleurs atours. Et on va à la fête. Un gala, en général, est une fête, est une cérémonie où les gens sont heureux, les gens sont de bonne humeur. Et là, en hébreu, ça veut dire totalement le contraire. En hébreu, c'est quelque part où tu es amené, tu es déplacé contre ta volonté. Comprenons une chose. Peu importe là où vous êtes aujourd'hui, peu importe le milieu où vous êtes aujourd'hui, vous êtes dans un endroit où Dieu vous a placé. Il vous a retiré d'un endroit pour vous mettre là. Nos vies ne sont pas le fruit du hasard. Nos vies, lorsqu'on se soumet à Dieu et lorsqu'on a Jésus comme maître et seigneur, c'est lui qui nous conduit. Ça veut donc dire que si aujourd'hui tu es établi à Montréal, c'est parce que Dieu avait un choix pour toi concernant Montréal. Dieu avait un plan, Dieu avait un objectif pour toi concernant Montréal. Mais être amené en captivité va avoir deux sens particuliers. Il va avoir ce sens de retirer une couverture, un peu comme on est abrité par une tente ou abrité ou abrié par une couverture et on retire cette couverture et on n'a plus rien sur nous. Donc, être placé pour qu'on soit découvert ou sans couverture. Ça a deux sens, être découvert ou sans couverture. Être découvert, c'est qu'on ne peut plus se cacher. On est confronté avec la réalité de notre propre personnalité. Parfois, le Seigneur va nous placer dans des endroits qui ne sont pas agréables, oui, pour qu'on puisse transformer et changer cet endroit et l'amener à la sanctification, mais de surcroît à cela, pour laisser ressortir la véracité de notre état, notre véritable moi. Dieu a amené Jonas jusqu'à Ninive pour faire un travail, mais non seulement il a amené Ninive à la sanctification, à la repentance, mais la vraie nature de Jonas est aussi sortie à Ninive. Il était un prophète, déjà reconnu, déjà respecté en Israël. Ça, c'est le pasteur André, pour ceux qui étaient absents lors de son dernier enseignement, qui nous a fait une bonne introduction au livre de au livre de Jonas et au personnage de Jonas. On se rend compte dans la Genèse que Jonas était donc pas dans la Genèse, en tout cas, dans Roi ou dans Chronique, on se rend compte que Jonas était un prophète déjà respecté en Israël, les rois d'Israël suivaient les recommandations de Jonas, et Dieu l'amène à Ninive, et c'est à Ninive que les mauvais côtés de Jonas vont apparaître. Donc on retire la couverture de « je suis prophète » et voici la vraie nature de ma personne. Dieu nous place parfois dans des moments ou dans des endroits inconfortables pour que notre vraie nature ressorte. Sera-ce une nature remplie de compassion, remplie d'amour, remplie d'entre-gens, ou est-ce que la vraie nature de la personne colérique, la personne qui manque de pardon, la personne qui est amère va ressortir? Au niveau de Jonas, c'est cette personne amère qui est ressortie. Alors oui, parfois, Dieu nous amène dans des endroits en captivité, des endroits galas, où on enlève la couverte, comme on dit ici au Québec, et on apparaît sous nos vrais traits. De surcroît à cela, c'est aussi un endroit de révélation. Gala va parler de révélation ou de découverte. Non seulement être dépourvu d'une couverture, mais aussi pour découvrir. Si on reste dans un milieu qu'on a toujours connu, on ne sera pas confronté avec la nouveauté. Si on reste dans un milieu qui nous est favorable, qui nous aime, qui nous adule peut-être, on ne sera pas confronté avec la nouveauté. Je dis très régulièrement que les gens qui ont favorisé le plus ma transformation et mon changement n'ont pas été ceux qui m'aimaient le plus. Ceux qui étaient contents et qui applaudissaient aux actions de Florent. Ceux qui étaient contents et qui tapaient sur l'épaule de Florent en disant « Oui, continue Florent, on aime ce que tu fais. » Eux étaient satisfaits de ce que je donnais. Ceux qui suscitent des changements dans la vie de Florent, c'est ceux qui n'aiment pas Florent, ceux qui ne sont pas en faveur de Florent, ceux qui sont voire contre Florent. C'est eux qui suscitent chez moi les plus grands changements. Et on doit leur être reconnaissant. Parce qu'effectivement, ils nous confrontent avec des choses à changer. J'ai appris auprès de personnes qui ne m'aimaient pas comment aimer ceux qui ne m'aiment pas. J'ai appris auprès de gens qui me confrontaient comment calmer mes ardeurs, comment parler avec douceur, comment pardonner. Le pardon ne s'apprend pas auprès des gens qui nous aiment, ne s'apprend pas auprès des gens qui sont d'accord avec nous. Le pardon s'apprend lorsqu'on est confronté avec une autre position que la nôtre. La douceur s'apprend lorsqu'on est confronté avec une autre idée que la nôtre. L'amour s'apprend véritablement ou se manifeste véritablement lorsque nous sommes confrontés avec des gens qui ne nous aiment pas. Alors l'amélioration de ta personne, l'amélioration de ma personne, passe aussi par la découverte de ce qu'est être quelqu'un de passionné, quelqu'un d'aimant, même lorsque les choses ne vont pas. Et ça, c'est l'image de Christ. Christ nous a montré comment aimer nos ennemis. Et voilà pourquoi, par la suite, il nous invite à nous aussi à aimer nos ennemis. Sachant que c'est difficile, sachant que c'est demandant, sachant que c'est désagréable, mais même si c'est désagréable, nous sommes appelés à être des agents de paix. Nous sommes appelés à rechercher le shalom, le bien de cet endroit qui nous est désagréable, de ces gens qui nous sont peut-être même désagréables, parce que notre bonheur dépend aussi du leur. Alors voilà ce que nous avions comme exhortation ce matin. Est-ce que nous sommes effectivement des agents de paix, des agents de sanctification, des agents de transformation dans le cercle où nous vivons, auprès des personnes que nous fréquentons? Est-ce que nous acceptons aussi que Dieu nous place dans des contextes désagréables, non seulement pour qu'on soit confronté avec notre propre véritable nature, mais de surcroît à cela, pour que nous apprenions aussi la transformation, le changement et le progrès. Alors prions. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes, qui nous confronte à des facettes parfois cachées de notre existence. Parfois on se targue d'être la personne la plus douce qui soit, la plus souriante, la plus aimable qui soit. Mais lorsqu'on est confronté à des gens qui sont contre nous, lorsqu'on est confronté à des gens, voire qui sont en animosité réelle contre nous, c'est là où notre vraie nature apparaît. Et dans bien des cas, Seigneur, nous confessons, ce n'est pas beau. Pas beau à voir, pas beau à entendre, peut-être même pas beau à subir. Alors je prie, Seigneur, pour moi en toute humilité, tu as encore des changements à faire, tu as encore des transformations à opérer dans ma vie. Et je comprends, Seigneur, que tu me places régulièrement dans des situations inconfortables pour qu'il y ait transformation dans mon existence. Je prie, Seigneur, pour ma sœur et mon frère qui nous écoutent ce matin. Je prie, Seigneur, que cette parole puisse se loger profondément dans les pensées des uns et des autres et qu'elle puisse susciter, Seigneur, les fruits de réconciliation, les fruits de pardon, les fruits d'amélioration, les fruits de progrès, les fruits de transformation dans la vie de mon frère et ma sœur. Je prie, Seigneur, que cette transformation dans leur propre vie suscite aussi une transformation dans leur environnement, pour qu'on puisse changer la propension au péché dans notre environnement pour une quête de sanctification et de justice, pour qu'on puisse aussi calmer les terreurs, les peurs, les choses qui nous angoissent et qui angoisse notre société, mais que nous soyons des agents de paix, des agents de joie, des agents de réconfort pour ceux qui nous entourent. Alors utilise mon ami, utilise mon frère, ma sœur, aujourd'hui, dans les prochaines minutes, pour être de tels agents. Je les bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve ce soir, c'est étude biblique, donc à partir de 19h. Comme on le dit à chaque fois, on aimerait que vous veniez tous à l'église le mercredi soir pour l'étude biblique. C'est autre chose que de nous suivre à distance. Si vous ne pouvez pas venir, on comprend et on continue à offrir. Mais on ne cesse de vous inviter à être sur place, en présentiel, pour suivre l'étude biblique du mercredi soir. Pour nous, on se retrouve demain matin, donc, pour la suite de notre bénédiction matinale demain, le jeudi 23 juin. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Soyez des agents de shalom, des agents de transformation, et soyez vous aussi transformés par l'action de Dieu dans votre vie. Bonne journée à tous.